Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Radio Campus Lille 106,6. Tous les dimanches de 11h à 12h30 désormais. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi nous écouter sur le www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec notre charmante motarde en or. Bon. Patricia, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Patricia, tu nous proposes une interview aujourd'hui avec deux artistes, Philippe Gurel, qui est illustrateur et qui a sorti récemment un album sur les Flat Twins.
Voilà, oui.
Et un autre dessinateur également, Bloz, hein, qui vient lui de sortir un best-of sur BD.
Oui, voilà, on va faire un spécial bouquin, hein, avec un petit fil de conducteur, vous verrez à quoi ça correspond.
Très bien, nous sommes aussi en compagnie de Patrice Lemaigre. Bonjour Patrice.
Bonjour, hein, bonjour.
Tu vas faire un peu la critique un peu de la BD, enfin du bouquin de... Non, c'est pas ça, c'était pas prévu comme ça.
Non, je vais pas...
Tu vas dire que c'est vachement bien en fait.
Je vais peut-être faire une petite aparté sur le bouquin de Philippe.
Une aparté sur le...
Que je connais bien en l'occurrence.
Très bien.
Ouais. Et je suis venu pour parler d'autre chose.
Très bien. Voilà, on devait parler nouveauté avec notre ami Nicolas Poiret. Nicolo, bonjour.
Bonjour.
Qui est notre webmaster. Hein, si ouais. On vous rappelle qu'on a un site internet, hein, donc c'est knc.free.fr. Donc on devait parler des nouveautés 2015. Hein, il y a quand même une tapée de nouveautés pour l'année prochaine. Hein. Mais malheureusement, on a un invité de marque aujourd'hui, c'est Éric Lebeau. Éric, bonjour.
Bonjour.
Éric, bonjour. Ça va, tu te sens bien, très bien. Le micro, hein, chose que tu passes très bien.
Je suis très content.
Voilà. Donc, on va dire en gros, vite fait, hein, tu as fait un tour du monde en Harley-Davidson, en Road King.
Exactement.
Voilà. Et donc, tu n'es pas de la région, hein, tu es du sud de la France.
Oui, je suis venu voir mes amis.
Et là, tu es monté, t'as vu, il fait beau hein, dans le nord, tu vois.
Chaque fois que je viens, il fait beau.
Donc, tu as sorti un bouquin, un livre, hein, Road Angels.
Qui est sorti l'année dernière et qui suit un livre de photos qui a été publié dès mon retour de voyage, qui a fait un carton et donc on a décidé de rajouter aux photos des textes.
Très bien. Eh bien, écoute, en seconde partie d'émission, tu nous raconteras un peu ton voyage, hein, parce que tu t'es parti de France, après tu es parti du côté
vers l'Est,
hein, et puis tu as fait tout le tour de la planète.
Voilà, pour sans revenir, carte, sans GPS, direction
sans GPS, c'est incroyable.
Hein, direction l'Est.
Très bien. Moi, je vous rappelle que la programmation musicale est signée Laurent Rodier. We'll be right back. magazine de la moto, c'est sur Campus, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30. On est aujourd'hui avec notre amie, notre charmante motarde en or, Patricia, et avec aussi Philippe Gurel qui est au téléphone.
Voilà, le grand plaisir d'avoir Philippe Gurel à l'antenne pour la sortie de son album Les Flat Twins, hein, qui a pu être découvert par au public, découvert par le public en septembre dernier lors d'une séance de dédicace. Alors Philippe, bonjour, bonjour pour ce temps que tu nous accordes en direct donc du salon Motorama, c'est ça?
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, tu es dessinateur et illustrateur. Et pour le grand public, si ton nom tout de suite n'amène pas à quelque chose de visuel, je pense qu'il faut qu'il se remémore, par exemple, l'affiche de Tout en moto de l'année dernière, de cette année. Je dis une bêtise, là.
Oui.
Voilà.
Oui, 2014.
Voilà. Oui. Et puis, bien d'autres choses, parce que ça fait déjà longtemps, après un parcours classique, hein, au niveau professionnel, au niveau formation, tu as fait l'école de l'image d'Angoulême.
Oui, une école de bande dessinée. Ensuite, une école de dessin animé, l'école des Gobelins, à Paris.
Et donc, tu travailles dans des champs très, très diversifiés, je dirais.
Bah, j'ai travaillé pour plusieurs... J'ai commencé par l'illustration dans des magazines enfants pour Bayard Presse pendant une dizaine d'années. Mais plus ça va et plus je me suis concentré sur
le monde.
Deuxième passion qui est la moto.
La moto. Et donc, voilà. Effectivement, je pense que tout le monde a feuilleté Moto Magazine ou le lit régulièrement, donc connaît tes dessins. Et puis les affiches aussi, donc j'ai parlé de celle de Tout en moto, mais aussi le salon de la BD Moto Gérard Maire, la deuxième édition.
Pour ça, j'avais pas fait l'affiche, j'avais fait le t-shirt, un logo pour le t-shirt, mais voilà, sinon j'ai fait effectivement des affiches pour différentes manifestations motardes, des t-shirts, des choses comme ça, et collaboration aussi avec d'autres magazines. Boxer Mag, Café Rasseur ou Rad.
Et c'est donc du fruit de ton travail, hein, sur plusieurs années, qu'on trouve, disons, une partie dans ce volume, ce premier volume des Flat Twins.
Oui.
Donc, ce premier volume n'est pas comme il a été abusivement écrit, hein, puisqu'on s'était un petit peu concerté là, sur ce point-là, entièrement consacré aux Flat Twins allemands, hein, mais disons que, en particulier ceux de la fameuse marque BM, mais ils y sont majoritairement présents.
Oui, en fait, au départ, donc, je voulais depuis quelque temps faire un recueil de mes dessins, donc... Je fais beaucoup de dessins tous les jours, évidemment, et faire un recueil avec tous les dessins, ça aurait fait un bouquin de, je sais, peut-être 500 pages, ça aurait fait peut-être un petit peu beaucoup, donc j'ai décidé de diviser ça par thème. Et donc le premier sera sur les Flat Twins, évidemment, puisque c'est ma première moto et je roule tous les jours avec un Flat Twin depuis une quinzaine d'années.
Et est-ce que tu avais une idée de fil conducteur justement pour le bouquin, ou comment tes choix se sont faits pour la présentation?
Ouais, ça s'est fait assez naturellement. En fait, j'ai rassemblé tous les dessins et il y a plusieurs parties. Donc c'est vrai que la question s'est posée. Je voulais pas faire un livre d'histoire, je voulais pas faire un livre technique, donc ça s'est rassemblé, donc ça suit un petit peu. On commence par les motos anciennes, les plus majoritairement il y a des préparations moto, donc plus ou moins inventées, et puis il y a du travail de commande, de la bande dessinée et beaucoup de croquis.
Oui. Et dans cet album, il ne faut pas s'attendre à des reproductions à l'identique, je dirais, des machines. Hein. C'est davantage ton regard sur elles, avec une grande importance du mouvement.
Voilà, ouais.
Je dirais que même quand elles sont statiques, moi, elles m'ont paru animées. Là, rien que le modèle de la couverture, avec le pneu comme ça un petit peu aplati, je me dis, oh, elle est déjà sur le départ.
Ben oui, oui, oui. Enfin, c'est vrai que je fais pas du dessin hyper réaliste. Enfin, il y a du plus ou moins réaliste. Ça va pas non plus vers le cartoon, mais oui, j'aime bien le mouvement dans la moto.
Oui, puis avec différents supports. Moi, je trouve que quand on aime le dessin, justement, il y a du crayonné, il y a de l'aquarelle.
Oui, de l'aquarelle, un petit peu de gouache, un petit peu de numérique aussi, même si j'aime un petit peu moins ça, les tablettes. Mais oui, j'ai essayé d'y mettre un petit peu de tout.
Alors, si tu le veux bien, on va se faire une petite pause musicale et après, on revient sur la genèse du bouquin. D'accord ?
D'accord.
À tout de suite. Merci. Oui.
Magazine de la moto, c'est sur campus, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30, aujourd'hui avec Philippe Gurel au téléphone.
Oui, on va donc retrouver Philippe qui est au salon Motorama sur le stand de Rad Magazine, c'est bien ça Philippe ?
Rad Magazine et Moto Magazine aussi.
Et Moto Magazine, d'accord.
Voilà.
Donc, pour les personnes qui vont aller au salon cet après-midi, tu es là présent avec toujours pour une séance de dédicace ?
Oui, très bien accompagné par Franck Margerin et Marc
Quadrado
de Motomag.
Ah non, bah, d'accord. Donc sont des chanceux. Ce sont des chanceux, ceux qui pourront aller se promener là-bas. Donc, on va revenir, si tu veux bien, sur la naissance particulière de ton album. Parce que tu as fait un choix au niveau de l'édition.
Oui, voilà. Ouais, c'est vrai que la question s'est posée pour ça aussi. Et j'ai opté pour l'auto-édition. Donc, ce qui implique évidemment beaucoup plus de travail, mais ce qui me laissait l'entière liberté de ce que je voulais mettre dedans et voilà.
Et c'est une super aventure en fait. Toi, tu es passé par. Tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est fait. Tu as utilisé donc ce que proposait Ulule. Hein,
voilà, un site de. On appelle ça le crowdfunding ou le financement participatif. Donc je suis passé par le site Ulule qui propose beaucoup de choses, donc pour financer des livres, mais aussi des spectacles, des films, des émissions télévision, enfin il y a un petit peu de tout, et en fait ça a très très bien marché, c'est parti assez vite, donc je proposais ce qu'on appelle sur Ulule des packs, donc différentes choses. Il y avait le livre dans un premier temps, après les livres dédicacés, le livre avec t-shirt, donc voilà. Je me
suis ça offre.
En marchand, mais
ça offre un large choix en fait, hein, pour toutes les bourses, je dirais, fonction de ce qu'on on veut mettre. Et si tu veux.
De 10 à 200 euros avec. C'est terminé avec ton portrait dans le livre.
Voilà. Alors. Voilà. Le but, c'est hein, de donner vie à des projets originaux. Donc, tu montes ton projet. Tu évalues le coût et ensuite il y a appel à participation. Hein, et c'est ça. Voilà. Et quand il y a suffisamment de souscripteurs, hop, ça part. Et c'est ce qui est arrivé pour toi. Ça a été très vite en fait hein, pour dépasser la somme initialement prévue.
Ben oui, en fait, donc j'avais demandé le minimum pour faire le livre qui représentait donc évidemment l'imprimeur et le maquettiste, j'ai été aidé par un maquettiste. Et donc ça, c'était vraiment le minimum pour pouvoir faire le livre. Et ça a largement dépassé la somme demandée. Dès le premier jour, j'étais arrivé à 1500 euros. Donc j'étais vraiment très étonné
du succès.
Ça, et très content.
Et, voilà. Et l'aventure continue, parce que tu vas pas t'arrêter à un premier volume.
Oui, ben voilà, l'idée donc c'est de pouvoir sortir la plupart de mes dessins qui s'accumulent tous les jours dans mes armoires. Et donc le prochain sera sur les Américaines. Donc Américaines, il n'y a pas seulement Harley-Davidson et Indian. Mais donc les Américaines, ensuite les Anglaises, les Italiennes, les Japonaises, les Françaises.
Eh bien, voilà, c'est super. Donc il va falloir à nouveau que les gens affirment leur soutien. Alors donc en souscrivant à nouveau à cette action.
Bah, je pense que je passerai encore une fois par ce moyen. Oui, c'est vrai que c'est aussi un moyen de faire de la pub pour le livre, le faire connaître, de jauger, savoir si le projet plaît, si je suis suivi là-dessus. Et donc c'est je trouve un excellent moyen.
Et tu t'y impliques, mais à fond, parce que donc tu disais, il y a dans les packs, effectivement, il peut y avoir aussi les caricatures personnalisées, donc avec photos, c'est ça?
Oui.
Et puis le t-shirt, et tu proposes même que les gens t'envoient leur mensuration pour pouvoir bien envoyer les t-shirts à la bonne taille.
Bah oui, vaut mieux, oui.
Oui, oui. Mais ce qui est génial, moi j'ai adoré faire un tour par ton blog et de lire ton cheminement, parce que tu le fais de manière très très spontanée et puis très humoristique aussi. Donc il y a plein de liens, et quand on va sur ces liens, bon, on te découvre effectivement Gurel caricaturiste. C'est plein de clins d'œil, hein. Ne serait-ce que dans les films, j'ai essayé de retrouver mon alphabet russe pour essayer de comprendre ce que tu avais mis, mais c'est plein de petites choses comme ça qui sont trop craquantes, je trouve. Et donc moi, je, outre cette découverte de ton univers par ton blog, j'invite aussi tous les motards qui vont aller par exemple au salon Moto Légende au parc floral de Paris, hein, fin novembre, à venir te rencontrer, parce que tu y seras sur à ton stand, ou bien...
Alors,
toujours...
Non, je serai toujours sur le stand Moto Magazine, puisque je dessine chez eux depuis maintenant 5-6 mois, je crois, et sur le stand LVM également, donc l'organisateur du festival. Sans doute que je passerai voir mes amis de la main au panier, pour qui j'ai fait des dessins également.
Oui, très beau dessin. Voilà, l'année du singe.
Le stand CS Concept de Jean Burdet et Cécile Carr. Voilà, donc je pense que je me baladerai un petit peu, puisque c'est aussi l'occasion de retrouver plein d'amis sur ce salon.
Philippe, on va mettre les liens pour ton blog. On espère que tu pourras nous faire le plaisir d'une nouvelle interview pour le deuxième volume des Flat Twins.
D'accord. Bah,
parce que c'est un grand plaisir pour nous. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir. You come a knocking on my door every time.
Patricia, aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle rubrique. C'est le motard lecteur. Et notre voilà. Motard lecteur, c'est Patrice Lemieux, qui est juste à côté de toi.
Voilà, donc effectivement, on inaugure une nouvelle rubrique, le motard lecteur. Alors, très rapidement, le principe, que vous nous fassiez découvrir une de vos lectures, que ce soit livre, BD, revue, même site ou blog, hein, mais qui a rapport avec le monde de la moto. Ça peut être en direct dans les studios, si vous pouvez vous y déplacer, pardon, ou par téléphone. Alors, pour cela, bah, nous contacter ou par mail sur kinc@orange.fr ou par message privé sur Facebook, hein, Kikinkout et Toupal. Et puis, vous nous donnez vos coordonnées, précisez le sujet même très brièvement. C'est seulement votre participation qui permettra à cette rubrique de continuer dans le temps. Et aujourd'hui, pour notre grand plaisir, le motard lecteur, c'est Patrice Lemièvre, donc aquarelliste très réputé dans le monde de la moto, BMiste aussi, et surtout, et donc qui va nous faire découvrir une de ses lectures. Mais c'est en toute décontraction, sans prise de tête, qu'avec le cœur et le plaisir du partage.
Bonjour à tous. Je voudrais simplement vous parler d'un petit livre qu'on m'a fait découvrir dernièrement, qui ne m'aurait pas attiré particulièrement si je l'avais vu à l'étal d'un libraire. Mais après sa lecture, c'est plein de bonnes surprises, en fait. Ce livre, c'est BMW, collection mythique, édition du Chêne, et l'auteur, c'est Didier Gano. L'idée de base est très simple et originale. Croquer l'histoire de la marque à travers ses modèles les plus emblématiques. Il y en a 20, en l'occurrence. Il y a 64 pages et 80 photos, pour vous donner une petite idée de la chose. La mise en page est claire, facile à lire, pleine d'enseignements. On apprend des tas de choses. Savoir, par exemple, qu'en 1937, le record de vitesse à 279 km/h a été réalisé en 1937. Que le TT de 1939 a été gagné par une BMW à compresseur, ce qui est quand même exceptionnel. Un compresseur en 39. Bon, c'est plein de petites choses à découvrir comme ça.
Effectivement, Patrice, c'est l'histoire de la marque.
C'est l'histoire de la marque. C'est-à-dire qu'on va débuter à l'origine de la marque, en 1923, par une R32. Et on va terminer par le dernier 6 cylindres, la série K. Mais en passant aussi par les modèles sportifs, tels que la S1000RR. Avec des records aussi de vitesse, mais là, c'est plus très raisonnable.
C'est le second ouvrage de l'auteur.
C'est le second
dans
ouvrage.
Dans la collection.
J'allais y venir après. Il y en a un autre qui est sur la marque L'Histoire de Honda. Je ne l'ai pas lu. J'ai rien contre Honda.
Ça pourrait être pour une autre fois.
pourrait être une autre fois, absolument. S'il est de la même veine, c'est vraiment à lire. Surtout que ce livre, à titre indicatif, il vaut 4,95 €.
Ouais, c'est une super collection.
C'est une très bonne collection.
Je ne vais pas lui parler parce qu'avec notre ami qui a fait le tour du monde
dans
en Harley.
Il n'y a pas Harley, mais
il y a pas Harley.
Ils ont démarré avec les voitures, les marques de voitures. Et Didier Gano, c'est
ça. Il faut savoir que Didier Gano, ça fait plus de 20 ans qu'il est journaliste dans la presse spécialisée voitures et motos, qu'il a sorti déjà une dizaine de recueils sur la moto spécifique, qu'il a travaillé aussi pour des revues techniques. Donc, c'est quelqu'un qui a un bon bagage technique et qui a réussi à faire une synthèse en 64 pages, 80 photos d'une marque. On parle même à l'intérieur d'une R1200C. Ah oui. Ça doit être cher à quelqu'un le studio.
Qu'est-ce que c'est que ce modèle?
C'est une moto qu'on a découvert pour la première fois, parce qu'il faut dire qu'autrement, elle n'attire pas particulièrement l'œil, dans un James Bond.
Ouais, non, c'est
Demain ne meurt jamais.
Exactement. Hein?
Ouais. Voilà, donc tout le monde sait ici à qui appartient cette moto. Voilà, donc je vous rappelle quand même que ce livre est dans la collection Mythique, BMW, édition Duchesne. L'auteur, c'est Didier Gano. Le format, c'est du 15-15 et le prix, 4,95.
Le magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30, toujours dans la BD, Patricia, avec un dessinateur.
Oui, et à nouveau, un grand plaisir, hein, celui d'accueillir à l'antenne Bloz, dessinateur fort connu des lecteurs de Moto Journal. Bonjour Bloz. C'est super gentil de nous accorder un peu de ton temps pour parler donc de la sortie du best-of des fondus de moto.
Oui.
Et donc, il y a cette particularité, mais on en reparlera tout à l'heure, d'associer planches de BD et fiches techniques, historiques, disons, une petite présentation avec photos de 8 motos qui sont là, passées, on va dire, au crible. Mais Bloz, les gens te connaissent comme dessinateur, mais pour beaucoup de bandes dessinées.
Oui, j'ai pas mal de séries. Alors ben, là, maintenant, actuellement, cette série sur les fondus d'une moto. Mm-hmm. Par ailleurs, il y a les fonctionnaires en BD. Il doit y avoir une quinzaine de tomes.
Est-ce que tu as déjà compté combien de volumes tu as pu sortir comme ça?
Actuellement, je dessine l'album. Mon 42e album.
Ah là là.
C'est un fond d'une moto et c'est le tome 7.
Ah, et
en mai prochain.
En mai prochain. Ah voilà, bah, il va être attendu parce que c'est une série vraiment très sympathique. Et dans l'album, là, le best-of, effectivement, on retrouve... On retrouve les aventures de tous tes héros sont fort plaisantes. Donc, tu voulais donc mettre en avant ton intérêt pour le monde de la moto parce que tu ne te concentres pas que sur la moto. Tu es aussi le dessinateur parce que tu es un enfant du pays. Tu es de la région de Dunkerque.
Bah voilà.
Alors, quand on est dans la région de Dunkerque, on dessine quoi?
Eh ben, on dessine le carnaval. Quand on est sur la BD humour, voilà, avec un scénariste de Dunkerque lui aussi, forcément, on avait ce truc-là en commun. On avait envie de raconter quelque chose sur notre région, et c'est forcément sur le carnaval que c'est tombé.
Avec les carnavaleux.
Avec les carnavaleux en BD, ouais.
Voilà. Et donc, voilà. Là, tu prépares le septième album parce que quelle production pour les fonds d'une moto? Faut dire que
j'arrête pas. Hein.
Bah voilà.
Je dessine un peu jour et nuit, je travaille chez moi et je fais que ça et à grosse dose et puis j'adore ça quoi. Et puis là en plus le plaisir de pouvoir marier en même temps la BD et la moto, c'est sont mes deux grosses passions. Bon ben voilà quoi, il y a pas de raison de se limiter, je dirais.
Parce que on a eu le plaisir de te rencontrer en fait en tout anonymat, mais on travaille un petit peu les choses à Bolzel.
Voilà,
intérêt plutôt pour les motos anciennes, d'après ce que j'ai vu.
J'aime les motos anciennes, non, j'aime toutes les motos en fait. Ouais, j'ai une préférence pour les anciennes, peut-être parce que je commence à vieillir aussi, mais j'aime toutes les motos, vraiment, j'ai envie de rouler avec tout, quoi. Après, oui, forcément, une préférence pour les twins et les plus vieilles. Maintenant, dans les fonds d'une moto, je dessine des machines courantes, j'essaie d'être au courant de l'actualité, d'aller voir un peu tout ça, de tourner chez les concessionnaires Mais j'aime la moto en général.
Et on va profiter d'avoir un motard lecteur là aujourd'hui pour lui demander ce qu'il pense justement de l'affiche, parce qu'on est axé BM, tu vois. Donc il y a une fiche sur R1200 GS, lui demander ce qu'il en pense.
Ce que j'en pense, c'est que les dessins déjà sont superbes, mais
bon,
les fiches techniques, c'est du ressenti, c'est pas vraiment une fiche technique, elle reste relativement humoristique. Étant BMiste, j'ai quand même relevé quelques erreurs. Mais légère, hein, légère.
Ça, il faudrait dire Motojournal. Insiste sur la BD.
À ma décharge, les fiches techniques ont été faites par l'équipe de Motojournal.
Ah, bah c'est Motojournal qui se met.
Mais tu vois, moi, c'était pas un bon choix.
Je vais leur laisser les erreurs et je vais garder les compliments pour le dessin.
Ça va, ça me rassure. C'est pas sur une critique sur toi, alors. Non, les dessins sont superbes. Voilà. Ceci dit, je conseille à tout le monde également d'acheter cette BD.
Ipinaille, à mon avis, Ipinaille, parce que l'ensemble est quand même.
La GS Adventure, c'est pas 400 km d'autonomie, c'est 600.
Bon, Loz, toutes mes excuses pour cette initiative malheureuse. Jamais j'aurais dû avoir recours au motard lecteur. 5 minutes, ça suffisait.
Donc, c'est combien l'autonomie du 1200 GS?
600 avec 33 litres de réservoir.
Voilà.
D'accord. Bon, on va dire que
GS Adventure, hein. 400 km, c'est la GS.
Voilà.
Ouais. D'accord.
Salut à toi.
Mais en tous les cas, écoute, nous on attend avec impatience la sortie du prochain album des Fonds d'une moto, et j'espère que tu nous feras le grand plaisir de revenir avec nous sur, j'irai l'ensemble de la série, parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine. Hein, on reprendra un petit peu l'évolution, hein, parce qu'il y a une thématique dans les Fonds d'une moto, souvent.
Oui. Bon, disons qu'au départ de chaque album, avec les scénaristes, on essaie de trouver à chaque fois une nouvelle trame et quelque chose qui pourrait nous guider au bout de ces 44 pages pour éviter de tourner en rond et renouveler toujours le sujet autour de la moto. Ouais.
Et donc le dernier album, c'était Les Inconditionnels d'une marque, c'est ça?
Non, il n'y a pas vraiment... on n'est jamais vraiment attaché à une marque, non. Et j'essaie justement, moi,
d'être le plus large possible pour plaire à un maximum de motards. On essaie d'y retrouver des anciennes, des sportives, du custom. Et... Non, j'essaie de viser large, au contraire.
Bah, je crois que c'est le cas, Bloz. Tu plais beaucoup. Alors,
Alors
on dit à très bientôt.
Mais je fais ça avec mes tripes, hein, vous savez, donc c'est vraiment un truc qui me tient. Donc si ça vous plaît, je suis d'autant plus content.
Moi j'ai découvert la série, pour être honnête, et j'attends le prochain. À très bientôt.
Super. Rendez-vous en mai. Merci.
Ouais, parfait. Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Un homme malmené par un quotidien que la crise financière tourmente décide début 2010 de casser tous ses repères et décide de partir faire le tour du monde. Aujourd'hui, c'est avec Eric Lebois. En fait, on pourrait faire un film là-dessus un peu, Eric. Finalement. Hein,
on y travaille.
Hein, ça commence comme ça l'histoire. Hein, c'est que
la crise financière.
Tu perds beaucoup d'argent parce que
tu perds tout.
T'es un homme d'affaires en fait.
Exactement. Hein,
et tu perds tout.
Je perds tout.
Là, c'est. Je perds tout
et dans une période très courte, en quelques semaines, autour de février 2010, je perds mon emploi, je perds mon job, Je perds mon job, je perds 20 ans d'épargne, je me retrouve, là la crise financière m'a rincé, je me retrouve à la rue, ma femme repart aux États-Unis.
Ça va pas du tout là.
Donc je me dis que je peux aider mes parents à les aider un peu, mon père de se faire opérer à cœur ouvert, et dans la semaine ma mère meurt de la trouille et mon père fait une crise cardiaque, voilà, ça commence comme ça. Donc ça, on a le choix à un moment donné, sur le balcon du cinquième, on se dit est-ce qu'on se jette ou est-ce qu'on continue, et comme c'est pas vraiment un départ très héroïque, on décide de trouver une solution, et la solution c'est profiter de la passion de la Harley pour aller se faire du bien sur une distance incroyable et de partir comme ça pour cingler vers l'Est sans carte, sans GPS, et de se dire... on y va, quoi, il faut y aller. Partir ou mourir, certains magazines ont dit, mais voilà, c'était un peu ça.
T'as plus d'argent, comment tu fais pour t'acheter la Harley ?
Ah ben ça, c'est très intéressant. Alors, je le conseille à tous les auditeurs. Bon, j'ai fait un truc qui se fait pas, c'est que j'ai arrangé un peu une fiche de salaire, des fiches de salaire en disant que j'enlevais la mention en préavis, parce qu'on m'a expliqué qu'avec ça, c'était compliqué d'avoir un crédit. J'ai payé deux échéances à 250 euros et je me suis dit si je meurs en voyage, ça sera mis sur le compte de la crise.
D'accord, ben voilà, écoutez.
Donc je suis parti avec une moto qui ne m'appartenait pas et voilà, je suis parti comme ça.
Voilà, comme ça tu l'as rodée, tu peux la rendre, maintenant tu es rentré. Là,
alors, entre-temps, je me suis débrouillé, j'ai réussi à la régler, on m'a aidé pour finir de la régler et puis voilà. Et
comme, alors ta moto c'est une
Road King Police,
un vieille sacoche, toute blanche, maintenant elle est blanche, il y a plein de signatures dessus.
Alors elle était blanche et moche au départ, un peu fade. Et j'ai décidé de donner l'accès à mon réservoir pour y coller les premières signatures qui avaient pour objectif de me remonter le moral en cas de grand moment de solitude. Et effectivement, j'ai commencé par mes filles, ça me tenait à cœur d'avoir mes filles avec moi, d'avoir mes amis qui m'ont encouragé à aller vivre mon rêve. Et voilà, donc ça a démarré comme ça. Et puis c'est parti assez vite, de façon un peu désordonnée. On a commencé à signer sur les pare-chocs, sur les machins. Et donc là, aujourd'hui, j'ai une moto qui est unique et qui porte avec elle beaucoup de messages et beaucoup de témoignages d'amour et d'amitié, d'encouragement, etc.
Bon, Eric, on appuie sur le démarreur. On part.
On démarre.
Bon, allez, comment on fait pour prendre une direction ? Parce qu'il faut que tu choisisses
la route.
La
direction, elle est simple. C'est que, bon, j'ai un profil dual d'homme d'affaires et en même temps, je suis un peu grand reporter. Ça, j'en parle pas trop parce que c'est une chose que je cache au monde des affaires et au monde du grand reportage, je cache que je suis un homme d'affaires. Donc, c'est un peu compliqué. En France, on n'est pas très ouvert là-dessus. Donc, vaut mieux pas. Et donc, je décide de partir comme ça vers l'Est, sans carte, sans GPS, avec très peu de préparation. Et voilà, il fallait y aller, quoi.
Alors, c'est quoi cette histoire de protéger par des backers ukrainiens, la folie des fiestas aussi?
Alors, quand tu as décidé de te reconstruire et de te faire du bien, c'est un peu le chemin de sa résilience. Quand on a décidé de partir comme ça et de se reconstruire, ben on essaie d'aller à la rencontre des autres, et c'est pour ça que j'ai pas pris de moyens de j'ai évité le GPS et la carte, justement parce que c'est un moyen qui est exclu en fait des rencontres. Et il est important de se perdre quand on part à l'aventure. Et pour moi, ce qui est important, c'était de me faire malmener aussi un peu. Et j'ai rencontré à Kiev un groupe de bikers qui a commencé à m'expliquer qu'ils allaient me donner des contacts pour m'encourager vers mon expédition. Et les contacts, alors il y a pas mal de jolies phrases. Il faut que tu ailles voir Andrei qui est à Yekaterinbourg, c'est 4500 kilomètres. Mais il parle quoi, Andrei? Il parle russe. Et comment je fais? T'apprends le russe. Et ça a commencé comme ça. Et puis, est-ce que tu crois en Dieu? C'est important parce que tu vas en avoir besoin. Et tous les témoignages comme ça, c'était encourageant parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que généralement, on se rend compte que les gens se font un peu peur tout seuls, et là c'était intéressant d'aller vers l'inconnu. Moi, l'inconnu m'excite plus qu'il me terrorise. Donc,
alors la vodka ça. Moteur aussi du hein, parce que forcément là-bas en Ukraine
la vodka c'est plus
c'est la boisson favorite.
La vodka ça arrive plus tard, ça la, L'Ukraine, c'est plutôt le Jack et c'est plutôt le whisky. Whisky, siski, rock'n'roll. Donc, pour la belle expression whisky, siski, rock'n'roll, je demande à une gamine de me dire, mais siski, c'est quoi ? Elle défait son elle ouvre son chemisier, elle prend ses seins à pleine main et elle me dit, siski, c'est ça. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils avaient le sens du partage et de l'amour. Tout le monde s'embrasse, toutes les filles s'embrassent sur la bouche. Elles viennent de, bon, moi, je le connais. Moi, je connaissais personne. Donc, je me suis rendu compte qu'ils étaient très accueillants. Je me suis dit, ça, c'est pas un mauvais chemin pour aller sur les chemins de sa résilience.
Donc tu pars en direction, tu traverses donc.
Je pars à l'est.
Dans l'est, hein, à l'est.
Je pars à l'est, je rentre en Russie et voilà, je pars à l'est et je file.
Bon, ben, on a encore un peu de temps quand même. Allons-y. Vous avez encore 5 minutes. On va, oui. Donc on fait signe qu'il faut passer à mon son de musique. Heading down the track, heading down the track, baby, I ain't coming back. Heading down the track, heading down the track, baby, I ain't coming back. Baby, I ain't coming back. Waiting, waiting, waiting for the train. Waiting, waiting, waiting for the train. All I want is peace of mind. All I need is time to heal. All I want is peace of mind. All I need is time. And I was heading through the hills with guitar on my back. And I was heading through the hills with a mojo in my sight. And I was feeling low and down, gonna lose everything. And I was feeling low and down, got no love for anything. All I want is peace of mind. All I need is time to heal. All I want is peace of mind. All I need is time. Heading down the track, heading down the track, baby, I ain't coming back. Heading down the track, heading down the track, baby, I ain't coming back. Heading down the track, heading down the track, baby, I ain't coming back. Waiting, waiting, waiting for the train. Waiting, waiting, waiting for the train. All I want is peace of mind. All I need is time to heal. Voilà, nous sommes en compagnie de Eric Lobo, l'aventurier, l'homme qui a fait le tour du monde. Écoute, en fait, c'est inquiétant avec toi. J'ai l'impression que c'est très simple faire le tour du monde. Pourtant, c'est compliqué. Il faut prendre.
Non, alors ce qu'il y a,
faut c'est... manger, il faut dormir, il faut.
Il faut manger,
en plus,
il faut dormir.
On a gagné au parcours. Là, tu passes des endroits où il doit pas avoir des stations comme ça, des routes. Surtout, on a la Davidson, en road king.
Alors effectivement, il y a effectivement avec vos auditeurs, on va avoir un conflit de communication. C'est que là, normalement, ça se fait avec un Africa Twin ou un GS
200. Voilà, c'est plutôt oui.
Mais c'est pas très rock'n'roll. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'avoir un contact plus direct avec les populations et peut-être colorer la relation avec les autres. Et c'est vrai que quand on voyage avec un Road King, avec une Harley en Russie, la Russie adore les motards. Ça facilite un peu la relation. Effectivement, il y a des moments où je suis pris en charge par des populations qui peuvent être considérées comme infréquentables, comme des bikers néo-nazis russes qui ont fait l'Afghanistan, la Tchétchénie. Et donc, c'est des types qui ressemblent plus à des brutes. Mais à côté de ça, ils vous donnent beaucoup d'amour. Ils s'occupent de vous, ils s'occupent de votre protection à chaque passage. Et puis, ils vous remettent à la sortie de leur ville. Et la ville suivante, elle a 1800 bornes. Donc, c'est des étapes qui font chaque fois 900, 1000 bornes. Alors, on dort où ? Normalement, en Russie, on n'a pas le droit de dormir dehors. On n'a pas le droit de dormir chez l'habitant. Et donc, on est en infraction dès le troisième jour. Donc, j'ai pas d'autorisation, j'ai pas d'assurance, je suis un peu comme un hors-la-loi, je me cartonne une Lada, je finis pratiquement en tôle, et donc je finis en tôle, et le lendemain je suis comme le super-héros, photographié avec les mecs, qui me souhaitent bonne route pour que je puisse continuer, avec ma fourche tordue, ma carrosserie pliée, et on répare ça dans un garage de Novosibirsk, avec une pompe hydropneumatique pour détordre les fourches et les trucs. Donc, c'est assez rock'n'roll comme voyage, et puis après on file comme ça jusqu'au lac Baïkal et puis on fait d'autres rencontres, des rencontres heureuses et des rencontres malheureuses. Et dans les rencontres malheureuses, on peut faire de mauvaises rencontres. Et un de mes collègues russes que je rencontre sur mon voyage, je se fais flinguer au retour. Donc c'est un voyage qui est quand même assez brutal, tout en étant c'est un vrai voyage d'aventure. C'est plus que voilà, on va faire du tourisme, on va se perdre avec des pneus à tétine au milieu de la Mongolie. Ça pourrait être, je pense que c'est pas la même force, mais en même temps, c'était mon besoin, c'était pas ça. Mon besoin, c'était renaître. Et quand on veut renaître, eh ben il faut passer à l'épreuve des flammes. Donc et là, c'est un bon moment quoi.
Donc tu traverses la Russie, tu
j'arrive à Vladivostok, je saute un bond de cabri sur la Corée, de la Corée on passe au Japon,
après
il faut aller retrouver nos amis bikers.
Là tu rames.
Là je fais une promesse, j'envoie la bécane en bateau, et donc j'ai fait une promesse aux bikers russes, c'est d'aller faire signer ma moto, comme je disais tout à l'heure, par un membre de la famille Davidson, et là en l'occurrence c'est Bill Davidson à Milwaukee, et ensuite, deuxième promesse, c'est de traverser Ocean Drive sur Miami Beach, debout sur la Seine.
Alors, et cette photo, elle n'est pas truquée, hein, parce qu'on voit les disques qui sont ventilés, et donc on voit bien que ça tourne.
Non, mais il ne faut pas oublier que ce tour que je fais, c'est un tour. Alors, les photos, je les envoie
comme
direct.
C'est une photo avec la radio, c'est difficile de montrer une photo. On va les décrire quand même. Tu es debout donc sur ta machine. Hein.
Avec des baskets fines pour pouvoir avoir un appui sur la selle. Donc
on se dit, mais comment il a fait pour tenir la poignée de l'accélérateur?
C'est
facile parce que sur une Harley, il y a une petite molette en dessous pour tenir le régime.
Voilà, on accélère, on bloque la molette en dessous, et puis à 60, c'est une moto Harley Davidson, c'est un rail, c'est pas un exploit non plus intersidéral, hein, donc on monte dessus.
Donc là, tu es à Miami, tu te fais arrêter par les flics, parce qu'à Miami, tu n'as pas le droit de faire
je fais ça à 7h du matin entre deux rondes de flics. Donc on fait une première série d'images qui est dans la grisaille, qui est assez moche,
préparé,
et on refait un deuxième tour. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il faut aussi faire de la communication pour pouvoir continuer à partager ça veut dire partager avec la presse, donc il faut faire des trucs un peu plus forts que juste une balade.
T'es quand même parti avec 800 euros seulement. Hein.
Donc 850,
là, t'as fait une bonne partie déjà de la planète.
Voilà, mais bon, les Russes se nourrissent.
T'as encore de l'argent ou comment tu fais?
On m'envoie un petit peu.
Explique-nous, parce que moi je comprends pas. Là, 800 euros, faire le tour du monde en Harley, il y a un truc.
La Russie, ça coûte rien, l'essence coûte rien. Dormir dehors et manger, ça coûte rien non plus. Et puis après, c'est vrai que comme j'ai vendu un. On a réactualisé un bouquin que j'avais fait. J'ai reçu un petit peu de sous comme ça de temps en temps qui m'a permis d'avancer. Quoi.
Voilà, donc bah, on continue un peu le trajet. Donc tu reviens, tu fais le tour. Donc
alors Amérique, genre
après tu repasses. J'ai plus parce que notre voilà. On va reprendre le truc.
Bah je pars
États-Unis et puis Daytona.
Je redescends à Daytona.
Forcément. Oui mais vous avez encore un peu de temps ou on peut encore se faire un petit morceau de musique.
Oui.
Parce que vous devez partir. Vous êtes vous avez des signatures à faire.
On prend encore un peu de temps.
On se rend 5 minutes. Ah c'est bien Arnaud. Bon. Sympa.
We'll be right back.
36 000 km d'aventure autour de la Terre. Aujourd'hui avec Eric Lobo dans les studios. Eric, on va terminer ce tour du monde. C'est pas facile, hein, en deux fois 5 minutes, trois fois 5 minutes. Mais bon, il faut,
il faut apprendre à synthétiser.
Hein, voilà, il faut synthétiser le truc. Voilà, donc les émotions les plus fortes que tu as ressenties. Bon, mis à part après en Ukraine, il y a quand même autre chose.
Oui, on va pas parler des filles. Parce que sinon, ça va faire venir beaucoup de monde. Non, ce qui est effectivement dans les épreuves intéressantes de roulage pour les motos, c'est les étendues russes. Ce sont des étendues qui sont infinies et on peut vivre des sensations qui sont assez rares. Comme par exemple la dernière épreuve, une des dernières épreuves pour clôturer cette traversée du continent de cette partie russe, c'est justement de faire une étape de 3100 km d'une traite en 49 heures avec deux stops un peu imposés qui sont des stops où on tombe un peu dans les pommes parce qu'on ne peut plus rouler, mais c'est des zones sur lesquelles il y a très peu de stops de carburant. Et c'est des zones qui sont très dangereuses parce qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de police. Et donc, c'est là que mon copain s'est fait, s'est fait assassiner. Et donc, il vaut mieux éviter. C'est une façon un peu de choisir sa mort. Il vaut mieux mourir sur la route d'un accident plutôt que...
Les bottes aux pieds.
Voilà, les bottes aux pieds plutôt que, voilà, que dans une tente, assassiné comme un lâche.
Les lits sont dangereux, les lits. Hein. C'est là qu'il y a plus de morts, hein, dans les lits.
Oui, de la crise cardiaque. Non, après les sensations, c'est vrai que ça, c'est la sensation la plus dure quand on perd quelqu'un. C'est les sensations les plus belles, c'est les relations d'amour que les gens vous donnent naturellement sans que vous leur demandiez quoi que ce soit. Et le point fort de ce voyage, c'est que l'amitié biker est quelque chose d'assez indéfectible. Et voilà, c'est... je vais répondre à d'autres questions vite fait.
Retour Miami.
Miami, ça se passe moyen puisque ma femme a quitté entre temps. Elle habite à Miami, donc je retourne la voir. J'essaie de voir si ça peut redémarrer. C'est plus un morceau de vie, hein, ce livre de Transboréal qui s'appelle Road Angels. Et puis le retour est compliqué. Je renvoie ma moto de Miami à Bremerhaven et je fais le retour le plus stupide. Je décide de partir à 4h de l'après-midi pour arriver à 3h à 4h de l'après-midi pour arriver à 3h de l'après-midi à Paris après 1400 km, toujours sans carte, sans GPS, sous la neige, des pneus lisses, les serpentins qui volent autour de vous. C'est assez magique, mais c'est assez stupide. Mais c'est fait sans mal. Et là, on a fait 36 000 km. On se dit, la moto est pas trop cassée, le pilote non plus. Et on pense qu'à une seule chose, c'est se dire la prochaine étape. Bon, alors, j'espère qu'on va le faire aussi.
La Harley, ça a tenu le coup ou...
Alors, la Harley,
dis-le, franchement.
Je vais être assez décevant pour tous les BMistes.
Je savais bien qu'il allait dire.
J'ai utilisé un jeu de pneus. J'ai fait 45 000 bornes.
Mais tu aurais pu le faire en BM aussi.
J'aurais pu le faire, mais je préfère les filles, moi. Tu vois, le problème, je préfère les m'arrêter.
Tu aurais pu le faire en MZ. Tu vois, MZ, c'était.
Alors, j'ai été accompagné avec des gens qui l'ont fait en Oural.
Ce
qui était aussi stupide que moi, parce que l'Oural c'est fait pour faire le tour du village, oui. Et la BM c'est fait pour rouler sur des highways, et puis là pas pour rouler sur des pistes défoncées. Et le message le plus joli que l'on m'ait fait quand on a roulé sur la terre pendant très longtemps avec un Road King, quand la moto est tombée, on m'a dit on te prenait pour un héros d'être venu jusqu'ici, en fait t'es un grand malade. Porter un sac à dos avec des cailloux, c'est quand même mieux pour se rapprocher de Dieu, hein, c'est le circuit de circumambulation des Tibétains.
Oubliez vos cauchemars et faites confiance à vos rêves.
Exactement.
Bon, Christine, tu meurs d'envie de parler du bouquin d'Éric.
D'Éric Lobo, donc Road Angels. Donc là, on retrouve effectivement tout ton voyage.
Voilà, on retrouve le périple et c'est vrai que c'est une aventure humaine avec en toile de fond un tour du monde. Mais c'est pas une visite touristique des pays que l'on traverse avec les bonnes adresses et les trucs. C'est pas le petit futé, c'est un livre d'aventure plutôt.
Voilà, donc à découvrir avant d'en faire un film peut-être.
On y travaille.
Voilà, donc à découvrir. Moi, j'ai juste retenu une phrase là parce que j'ai pas eu le temps de le lire puisque tu me l'as dédicacé hier soir. C'était le dernier. C'est l'expérience n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons.
C'est ce que l'on en fait, oui. Et voilà, tout est dit
dedans. Donc à lire, Road Angel. Donc,
ce qui est important, c'est l'expérience que l'on en retient de ce type de voyage.
Là, tu repars à Aix-en-Provence.
Je repars à être à Aix-en-Provence. Je prépare le prochain trip l'année prochaine avec une Harley Davidson pour encore énerver les BMistes et pour faire un voyage un peu off-road avec dans un cadre spécial d'une amplitude thermique de 100 degrés Celsius. Donc on va rouler sur la glace, je vais rouler sur la glace, on va traîner certainement une luge, ça va être un voyage d'aventure assez fort.
Et ça, et où ça ?
Sibérie, Détroit de Bering, et la redescente par le pays Esquimau, la route des convois de l'extrême sur la glace.
Attention aux ours, hein, parce que...
On y travaille.
Merci de présenter quand même Arnaud, et puis Franck aussi, hein. Faut que je prononce bien. Vas-y. Votre club, c'est Broken. Je préfère que tu le dises. Donc vous briefez Eric, hein, parce que il connaît pas la région. Hein.
Ouais.
C'est la première fois que tu viens, Eric, ici dans le Nord.
C'est la deuxième fois. Je suis toujours extrêmement bien accueilli et à tel point que j'ai du grand soleil chaque fois que je viens.
Voilà. Il y a un dicton qui dit que dans le Nord, hein, tu braies deux fois. Hein,
voilà.
Quand tu viens et quand t'as retard, va. Hein.
Voilà.
Voilà, donc vous l'avez piloté un peu ici dans la région parce que vous avez
essayé de donner un coup de main par rapport il y avait un truc qui était prévu qui était annulé avec Eric, et puis nous on a essayé de lui donner un coup de main pour avancer pour que ça se passe bien et puis qu'il vende ses bouquins aussi, c'est
oui en plus hein. Voilà. Bon ben bonne fin de.
En tout cas,
je tiens
à remercier en tout cas tous les amis ch'tis. J'ai reçu un accueil assez extraordinaire. Et c'est la deuxième fois que je viens et je promets que je reviendrai encore. Hein,
parce pas bien,
que...
bah, écoute, nous, quand tu veux. Hein.
Ah c'est vraiment un accueil exceptionnel.
24 sur 24, tu sais, ici. C'est...
Et c'est des vrais enthousiastes.
Hein. Merci Eric, et puis bonne chance, bonne aventure encore. Hein.
Merci,
tu nous fais rêver en fait.
C'est ce que j'essaie de partager maintenant. Voilà,
très bien. Merci Arnaud, merci Franck.
Merci à toi, merci à vous.
About her, leave her behind. Forget about her, let her go.
va terminer cette mission avec un peu de, avec du sport, avec Nico. Mais d'abord, je vais donner une info, parce que je vais l'oublier là. La concentration des pingouins est annulée. Là, celle de 2015 est annulée. Donc, ceux qui avaient prévu leur balade donc en début janvier là pour cette hivernale, hein, dans les Pyrénées, hein, ouais. Eh ben, il va falloir rentrer la machine au garage. C'est pas la peine. Cette concentration et cette hivernale est annulée. On va parler un petit peu Grand Prix, parce qu'aujourd'hui c'est le GP d'Australie.
Oui, c'est ça. Donc à 7h du matin.
Tu t'es levé, Nico, à 7h du matin?
Ah oui, bien sûr, devant le
moi aussi, je me suis levé.
On a regardé le Grand Prix. Et donc, effectivement, c'était à Phillips Island. Ouais. C'est un superbe Grand Prix parce que généralement, c'est tout près de la mer. Donc, le tracé est magnifique avec du soleil. Et c'est vrai que c'est un superbe circuit. Et ce circuit, il a connu un petit souci parce que l'an dernier, ils ont refait le revêtement. Et je ne sais pas si tu te souviens, la Miche, l'an dernier, dès les essais, ils faisaient 15 tours avec les pneus qu'ils utilisent d'habitude.
Et rincés.
Et ils étaient morts.
Ouais, oui, c'était mort.
Les pneus étaient morts.
Ouais.
Donc ils se sont dit, bon, bah, on va faire la course avec 12 tours seulement. Ils changeront de pneus.
C'est quand même incroyable qu'un manufacturier, il n'est pas capable de faire des pneus qui tiennent.
Incroyable. Ouais. Ouais. Mais vraiment, ce revêtement, il est vraiment atypique parce que partout ailleurs.
On va dire que c'est Bridgestone hein, aussi.
Mais c'est le revêtement de la piste qui est vraiment atypique.
Oui, oui, oui.
Et donc, bon, l'an dernier, ils avaient donc fait cette course. Et puis sur la grille de départ, il faisait très chaud, très sec. Ils s'étaient dit, ben, peut-être on va faire 11 tours à la place de 12 tours. Et ils avaient dit ça simplement sur la grille de départ. Et Marquez, qui était très concentré, c'est sa première année en MotoGP, il avait complètement zappé qu'on avait dit un tour de moins. Et du coup, lui, alors que tout le monde était arrêté dans les stands pour changer, il est passé à fond la caisse sur la ligne droite, comme une balle. Alors, et il n'est pas rentré au stand. Et du coup, il avait été disqualifié. Donc, il avait un mauvais souvenir en Australie. Et là, je pense que cette année, il va avoir encore,
un mauvais souvenir. Parce qu'il a...
Il a chuté.
Il a chuté, Marquez.
Il a chuté, oui, voilà. Ouais. Et par contre, celui qui s'en est sorti dans l'histoire, c'est le fin stratège, le vieux renard.
Et ouais. Hein, c'était... Ouais, parce que ça devient un vieux maintenant. Hein.
Ouais, quand même. Et c'est Rossi qui a gagné la course. Mais une course très mouvementée, puisqu'en fait, c'était une course par usure. Au fur et à mesure, les leaders se sont cassés la figure. Et probablement, toujours à cause de ce problème de revêtement. Parce que cette année, Bridgestone, ils ont dit, bon, on va faire un pneu qui convient à cette piste. Ils ont fait un pneu spécial, très, très, très dur. Et le pneu très dur, en l'occurrence, à l'avant, ça ne va pas du tout. Donc, ils avaient fait un pneu asymétrique à l'avant. C'est-à-dire, d'un côté, très tendre, parce qu'il y a très peu de virages à gauche. Donc, il fallait pouvoir avoir un pneu qui tienne. Et de l'autre côté, un pneu dur, parce que la piste est très abrasive. Et visiblement, au freinage, quand on est un petit peu sur les deux composants de pneus, la réaction de la moto est très bizarre. Et il y a eu énormément de chutes, 9 chutes au total. Donc la bonne nouvelle, c'est que Magdi Meguillo, le Français, pour la première fois a marqué des points. Il est arrivé 14e. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y avait que 14 personnes sur la piste.
Le pauvre malheureux. La saison pour...
Mais c'était le purgatoire.
Ah oui, purgatoire. Ouais.
Une moto qui n'est pas du tout au niveau.
Ouais,
pas,
donc, mais pauvre. Par contre, notre petit Anglais, là, Bradley Smith, qui monte sur le podium.
Alors Bradley Smith monte
sur
le podium.
On l'avait vu l'année dernière. Hein,
mais il a doublé sous drapeau jaune. Donc,
Ah oui. Alors, on n'a pas le droit de doubler sous drapeau jaune.
Voilà, et donc je pense qu'il va y avoir une pénalité. Ça m'étonnerait qu'il s'en sorte sur le podium. Donc,
Non. Pas de musique, musique. Non.
Don't let my heart speak whilst the wicked are the scumbags.
Voilà, c'est presque la fin du magazine de la moto. C'est sur Campus tous les dimanches de 11h à 12h30. On va terminer sur ce fameux Grand Prix. Et puis on fait en règle générale hein, cette saison, hein, cette année de MotoGP. Mais une petite info de nos amis du Caïman.
Voilà, le cercle des amateurs inconditionnels de moto ancienne du Nord. Donc le Caïman organise un déplacement en bus samedi 22 novembre à l'occasion du Salon Moto Légende au Parc Floral de Paris-Vincennes.
On y sera.
Nous aussi, on y sera.
Eh oui, mais on sera pas avec le Caïman, mais on y sera. Deux points de ramassage sont prévus, donc un à Dunkerque et l'autre à Lille Anglo. La participation, 45 euros, ça comprend le déplacement et l'entrée du salon. La date limite d'inscription s'est fixée au 31 octobre. Et attention, attention, parce qu'il n'y a qu'un seul bus. Donc
et il faut remplir le bus, sinon voilà. Ce sera plus cher. Et donc,
les places sont limitées. Donc vous pouvez appeler Alain Delphi au 06 20 50 29 37.
Voilà, bon, on revient donc sur ce fameux Grand Prix d'Australie, donc Marquez qui a chuté. Heureusement que finalement, il a été titré la semaine dernière, en fait.
C'est incroyable, ouais. Effectivement. Toute la première partie de la saison, il n'a fait que gagner. Et il a eu que des soucis la seconde partie de la saison.
Donc, c'est à l'inverse de Lorenzo, en fait.
Complètement. Ouais. Et au fur et à mesure que Lorenzo, lui, avait des gros soucis en début de saison. Et à la fin de la saison, il était très redevenu performant. Et Rossi, toute la saison, il a quand même fait pas mal de fédères.
Alors, la première place est faite hein, pour le championnat du monde, hein.
Bah, oui,
c'est deux fois le plus jeune champion du monde hein, de l'histoire de la moto hein, depuis que les Grands Prix existent. Et puis, mais par contre, la deuxième place, c'est pas fait du tout.
Il y a une grosse bagarre pour la seconde
place. Il y a Lorenzo Rossi qui met 25 points là. Hein, voilà. Donc il y a 8 points d'écart entre son coéquipier.
Il y avait aussi
Pedrosa qui ouais. est aussi.
Mais comme il est chuté, il est plus dans la course.
Ah, il est plus dans la course. Ouais. Ouais. Parce qu'il reste deux Grands Prix en fait.
Il reste deux Grands Prix. Et le prochain, c'est le week-end prochain, puisque là, il y avait trois Grands Prix qui s'enchaînaient. Donc c'est vrai que c'était un petit peu chargé, et donc s'il y avait des chutes ou des blessures, ça a impacté énormément la saison.
Ouais, tiens, il y a des nouvelles de notre pilote français de Pigné, Ronny de Pigné.
Oui.
Qui va participer tiens, au dernier Grand Prix sur une Suzuki parce qu'il développe la moto parce que Suzuki va revenir donc en compétition dans le championnat.
Il y aura une marque supplémentaire. Ouais, voilà, il y aura une marque supplémentaire Suzuki et c'était Randy qui développait la moto. Il espérait être en MotoGP. Ils ont pris des petits jeunes finalement. Hein. Ils ont pris des petits jeunes. Ils ont pris.
Il espérait bien être ouais. Avoir la place. Mais ouais, voilà. Bon, ben, voilà. On va le retrouver en Superbike.
On le retrouvera en Superbike l'année prochaine.
Voilà, ben merci Nico. Écoute, le générique arrive. On va devoir se quitter.
Bon dimanche ensoleillé à tous.
Merci Patricien hein, pour cette intervention téléphonique avec nos dessinateurs.
Bon dimanche
oui.
à tous.
Bon, oui. Merci Patrice.
Merci à
lecteur
vous
et... un peu critique quand même. Hein,
mais il faut rester objectif. <et tout. rire>
Merci bon Nico pour les infos moto GP. Merci Christine pour toutes les infos aussi club. Je rappelle que c'est l'info majeure car un auditeur nous a appelé, un auditeur motard, que l'hivernale des pingouins en 2015 est annulée. Donc c'est pas la peine de commencer à préparer le voyage. Cette hivernale n'aura pas lieu. Merci Laurent pour la musique. On se retrouve dimanche prochain à 11h.
Au revoir.
Au revoir.